Philippe, 12 novembre 1982, Rimont.
Je réponds tout de suite aux deux questions posées. La semaine dernière, vous avez montré que la distinction philosophie pratique, philosophie spéculative, parallèlement à ordre génétique et ordre de perfection, avait pour origine les deux modes de connaissance sensible et spirituelle. Pourriez-vous préciser cet enracinement dans le vivant qui conditionne toute l'organisation de la philosophie? C'est plutôt pour la philosophie du vivant, ça. Les deux types de connaissances sensibles, à savoir le sens de l'imagination, se retrouvent-ils dans la distinction des branches philosophiques? Bon, en quelques mots, hein, je vais préciser, parce que je ne veux pas entrer trop là-dedans, nous sommes en philosophie première, hein, ici. Oui, autant que possible, les questions doivent correspondre aux divers cours. Je vous dis ça, c'est parce que moi, je n'ai pas le temps de les lire avant, alors j'arrive, et c'est mieux pour vous. La question ici est une question qui regarde, au fond, plus la question de la philosophie, la question du vivant. Pourriez-vous préciser cet enracinement dans le vivant qui conditionne toute l'organisation de la philosophie? C'est très vrai que ça regarde aussi la philosophie première, puisque ça regarde le point de vue de la critique. Alors, c'est tout simplement connaître, comprendre, et ça, nous ne verrons pleinement que du point de vue critique, comment toute notre connaissance commence par nos sensations. Si toute notre connaissance commence par nos sensations, nous passons d'abord par la connaissance sensible, mais quand je dis sensation, comprenez bien, hein, c'est comme dans le jugement d'existence. L'intelligence est présente à nos sensations. Notre expérience, c'est ce qu'il y a de premier. La première chose, regardez un gosse quand il s'amuse avec des boules. Qu'est-ce qu'il pense? Je n'en sais rien. Et vous ne vous rappelez pas non plus de ce que vous pensez quand vous étiez dans votre berceau. Sauf exceptionnellement. On vous le fera repenser, mais ce n'est pas sûr que ce soit vrai. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que notre connaissance a commencé par des connaissances sensibles, des connaissances confuses. Puis petit à petit, nous sommes arrivés à des connaissances spéculatives. Et ordinairement, la première connaissance spéculative que nous avons commencé, c'était les connaissances mathématiques. Et quand si on avait un peu de facilité là-dessus, on a dit, ah, vous avez la bosse mathématique, continuez les mathématiques. On a oublié qu'après les mathématiques, il pourrait y avoir l'ouverture vers la philosophie. Et que la philosophie était autre chose comme connaissance spéculative. Mais c'est vrai que les connaissances spéculatives, ordinairement, s'éveillent après les connaissances pratiques. Je dis ordinairement, ut in pluribus. Ut in pluribus, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est comme ça. Les connaissances spéculatives s'éveillent après les connaissances pratiques. Les connaissances spéculatives s'éveillent après les connaissances pratiques. Parce que notre connaissance est d'abord une connaissance sensible. Nous sommes d'abord des êtres sensibles et des êtres imaginatifs. Et quand l'imagination est trop grande, on décolle. On n'arrive plus à rejoindre le réel et on reste dans l'imaginaire. Oui. Il faut dépasser l'imaginaire et le sensible pour arriver à une connaissance spéculative. Mais ce qui n'empêche pas que toutes nos connaissances sensibles, toutes nos expériences, impliquent une présence de l'intelligence. Mon intelligence, elle est au bout de mon doigt. Quand je touche avec intelligence le bois, hein, et j'essaie de comprendre la qualité de ce bois, c'est mon intelligence qui, à travers la sensation, touche le bois. Parce que mon intelligence n'a pas d'organe. Elle n'est pas liée au cerveau. Elle se sert du cerveau. L'imagination, oui, elle est localisée. Mais pas dans mon intelligence. Et mon intelligence, donc, peut être présente. Et c'est ça qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Que l'intelligence est présente à travers toute la sensation. L'intelligence est présente à travers tout l'imaginaire. L'intelligence est présente à travers toutes mes passions. Elle est présente. Mais elle n'illumine pas toujours mes sensations. Elle n'illumine pas toujours mon imagination. Mais elle est présente. Parce que mon intelligence est spirituelle. Elle n'a pas d'organe lié à mon intelligence. Mon intelligence se sert de mes sensations. Je ne peux pas connaître intellectuellement sans les sensations, sans l'imagination. Il y a toujours une image, même quand vous faites de la métaphysique. C'est même ça qui est gênant. Parce que vous avez toujours une petite image, hein, Alors, parce que vous avez toujours une petite image, si vous êtes un peu imaginatif et un peu fatigué, vous restez à l'image. C'est plus facile que de faire l'effort d'aller un peu plus loin. Alors, je suis fatigué, je m'arrête à l'image. Je m'arrête à cette image du chat qui existe. Et je vois tous les petits chats qui existent. Ça, c'est l'imaginaire. L'imaginaire représente tous les chats. Tandis que seule l'intelligence touche l'être. Vous n'avez jamais touché l'être avec votre sensation. L'être n'a pas d'odeur. L'être n'a pas de couleur. L'être est au-delà. Seule l'intelligence pose le jugement d'existence, ceci est. Si le chat pouvait parler, il serait intelligent. Mais si le chat pouvait parler, il ne pourrait pas poser un jugement d'existence. Il dirait miaou, c'est tout. Mais il ne poserait pas un jugement d'existence. Il aurait une petite tape. Il ne poserait pas un jugement d'existence. Le chat vit dans la sensation. Et celui qui ne vit que dans les sensations, celui qui ne vit que dans l'imaginaire, ne pose pas le jugement d'existence. C'est quelque chose qui se perd, le jugement d'existence. La preuve, c'est qu'on a beaucoup de peine de le redécouvrir. On a une peine énorme de le redécouvrir. Il est spontané. Un enfant pose plus facilement jugement d'existence que quelqu'un qui a fait 4 ans d'études philosophiques en Sorbonne. Plus facilement. Parce que les 4 études de philosophie en Sorbonne vous mettent une couche d'idéalisme et de dialectique tellement forte que vous avez une peine énorme de revenir au réalisme. C'est pour ça que Brunswick disait, mais il commençait son cours de philosophie, ce que je vous ai déjà dit, messieurs et mesdames, mettez le sens commun à la porte. Nous allons faire de la philosophie. Alors il aurait dû dire, à ce moment-là, nous faisons une idéologie. Nous allons entrer dans mon système. C'est ça l'idéologie. On entre dans le système d'un philosophe. Et quand Brunswick faisait sa philosophie, c'était l'idéologie Brunswick. Et l'idéologie Brunswick était un système intéressant, très intéressant, néo-hégélien. Bon, alors vous voyez comment, de fait, l'ordre génétique se fonde sur la sensation et l'imagination. Et c'est pour ça qu'on arrive progressivement à dépasser l'ordre génétique pour atteindre l'ordre de perfection. Et il est évident que l'ordre de perfection me met en présence d'une philosophie spéculative. Mais la philosophie pratique, c'est déjà l'intelligence. Ce n'est pas du tout uniquement l'ordre génétique. Vous voyez, donc l'ordre génétique a des niveaux différents. Il y a l'ordre génétique d'une façon tout à fait générale. Le passage de la sensation à l'intelligence. Et puis il y a un ordre génétique à l'intérieur de la philosophie. Et à l'intérieur de la philosophie, il y a la philosophie pratique avant la philosophie spéculative. Alors, dernière question. Les deux types de connaissances sensibles, à savoir le sens et l'imagination, se retrouvent-ils dans la distinction des branches philosophiques? Non. Les branches philosophiques sont au niveau de l'intelligence, pas au niveau de la sensation et de l'imagination. Oui, j'espère que vous comprenez. Je fais ce petit tableau pour que vous voyez bien. Donc, quand je parle de l'ordre génétique, une façon générale de la connaissance, l'ordre génétique, implique le primat de la sensation, le primat de l'image. Et je vois comment, de la sensation et de l'image, j'arrive à l'universel, j'arrive à saisir les principes, j'arrive à saisir les lois. Ça, c'est l'œuvre de l'intelligence. L'intelligence seule. Or, il est très vrai que, selon l'ordre génétique, les sensations sont premières et l'intelligence est seconde. C'est vrai, vous faites ça tous les matins en vous réveillant. Vous touchez d'abord, et puis vous vous réveillez. C'est l'intelligence. Vous mettez à prier, c'est l'intelligence. Vous ne priez pas avec votre sensation. Vous ne priez pas comme un petit chat, n'est-ce pas ? Ce qui serait le miaulement pur de la sensation, n'est-ce pas ? Alors, qui serait l'imaginaire pieux, l'imaginaire. Non, c'est pas ça. Vous ne priez pas uniquement en faisant des exercices du corps. Que les exercices du corps peuvent vous aider à prier très bien, mais ça peut aussi vous gêner. Parce que la prière, elle est intérieure. Elle n'est pas au niveau universel, mais elle est au niveau du cœur et du cœur spirituel. Elle est au niveau de l'intelligence liée à l'affectivité. Donc, vous avez ce premier ordre. Puis, vous avez ensuite l'ordre au niveau philosophique. L'ordre pratique, et l'ordre spéculatif. C'est un autre ordre. Alors aussi, vous pouvez dire qu'il y a un ordre génétique. Puisque vous commencez par l'ordre pratique, puis vous arrivez à l'ordre spéculatif. C'est très vrai, il y a un ordre génétique. Mais vous comprenez que cet ordre génétique ne peut se comprendre qu'au niveau de l'intelligence. Puisqu'il est philosophique. Et toute la philosophie est l'œuvre de l'intelligence. Ce n'est pas l'œuvre de la sensation et de l'imagination. Deuxième question. Peut-on dire que le primat de la négation devient en définitive une certaine... revient en définitive à une exaltation de l'intelligence. Je ne dis pas ça. L'exaltation de la subjectivité. Pas la même chose. Parce que la subjectivité est peut-être l'enterrement de première classe de l'intelligence. Alors, il faut bien saisir. L'exaltation de l'intelligence, du reste, ça dépend comment on l'entend. Si on entend l'exaltation de l'intelligence, l'orgueil de l'intelligence. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là. L'orgueil de l'intelligence. Alors, l'orgueil de l'intelligence, ce n'est pas être intelligent. Vous avez tous rencontré dans votre vie des orgueilleux. Qui prétendent être très intelligents. Et vous apercevez au bout d'un certain temps que le serpent meurt sa queue. Ce qui n'est pas intelligent. L'orgueil, de fait, l'orgueil arrête le développement de l'intelligence. C'est l'humilité et la pauvreté qui me permet d'aller jusqu'au bout du développement de mon intelligence. Parce que l'humilité et la pauvreté m'oblige de revenir toujours au réel et à l'expérience. Pourquoi un orgueilleux n'écoute jamais l'autre? Il n'écoute que soi. Il n'y a que ce qui vient de lui qui est intéressant. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus de dialogue. Il n'écoute pas l'autre. Pourquoi? Il manque d'humilité. Or, c'est l'autre qui m'enrichit. C'est pas moi. Moi, je fais mon système. Et j'établis mon système. Donc voyez que l'orgueil comme tel arrête le développement de l'intelligence. L'orgueil provient d'où? C'est pas l'intelligence l'orgueil. L'orgueil c'est la volonté. C'est l'amour que j'ai de ma propre exaltation. Et je me sers de l'intelligence pour ma propre exaltation. Donc c'est l'exaltation du sujet. De l'individu. C'est pas l'exaltation de l'intelligence. C'est moi-même qui veux me servir de l'intelligence pour m'exalter. Donc l'orgueil est volontaire, il n'est pas intellectuel, mais la matière de l'orgueil, c'est l'intelligence, ordinairement. Il peut y avoir d'autres choses, parce que je peux m'enorgueillir pour 36 choses. Je peux m'enorgueillir pour mon intelligence, c'est ordinairement ce qui se passe. Mais je peux m'enorgueillir pour ma bêtise. Ça peut arriver. Bon. Alors, quand on s'enorgueille de sa bêtise, vous comprenez bien, c'est encore l'exaltation. Oui, il y a des gens qui font le clown, vous voyez, pour cacher leur bêtise. Alors, ils font le clown. Alors, c'est l'exaltation de soi, c'est très net. Au fond, l'orgueilleux, c'est celui qui veut toujours être premier. Quand il sait qu'il ne peut pas être premier du côté de l'intelligence, il est premier du côté de la bêtise. Alors, il s'exalte lui-même de ce côté-là. C'est une manière s'exalter, c'est une manière de voir qu'on s'intéresse à nous. Si on n'a pas parlé de vous pendant toute une journée, on fait une bêtise pour qu'on parle de vous. Et en fond, c'est le truc de l'orgueil que fait qu'on attire l'attention. On veut être premier, on veut attirer l'attention. Mécanisme de l'orgueil, hein, ça nous connaissons très bien psychologiquement, le mécanisme de l'orgueil. Parce que c'est le péché dominant de chacun d'entre nous. Donc ne le cherchez pas, c'est facile à trouver. C'est le péché dominant de chacun d'entre nous. Si vous dites, ah, c'est pas mon péché. Ah, parce que l'orgueil est très caché derrière la bêtise. Alors, à ce moment-là, vous ne le voyez pas. Mais si votre orgueil se sert de votre intelligence, vous en êtes tout à fait conscient. Quand je me sers de mon intelligence pour être orgueilleux, j'en ai parfaitement conscience. Quand je me sers de ma bêtise pour être orgueilleux, alors vous voyez, ça tombe vers la vanité. Hein. C'est l'orgueil gros qui se va vers la vanité. On veut être intéressant. Alors, on veut être intéressant, on veut attirer les regards. Ça, c'est la vanité. Alors, à ce moment-là, il n'est pas conscient. Parce que c'est la vanité qui le cache. Bon. Alors, comprenons bien. L'exaltation du sujet par la négation, le primat de la négation, le non. Le primat de la négation n'exalte pas l'intelligence, puisque c'est un arrêt de l'intelligence, la négation. Non. Ceci n'est pas. C'est pas comme ça. C'est un arrêt de l'intelligence. Cet arrêt de l'intelligence met en pleine lumière la subjectivité et la transcendance de la subjectivité. Le primat de la subjectivité. Le primat de la subjectivité, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. Même si je dis que cette subjectivité, elle est d'abord dans l'intelligence. Le primat de la subjectivité, c'est quoi? C'est le primat de moi-même. C'est mon moi. C'est pas mon intelligence. Il y a une différence entre mon moi et mon nous. Et mon intelligence. C'est pas la même chose. La subjectivité, c'est le moi, et c'est en premier lieu la volonté. On retrouve un volontarisme. C'est très curieux. On retrouve un volontarisme dans le primat de la négation. Ce n'est pas l'intelligence. Alors, très souvent, on fait croire que c'est l'intelligence. Et que c'est l'intelligence qui est source de tout. Source de l'autonomie, c'est vrai, mais source de l'autonomie. Source des idées. Source de tout ce que je connais. Source de la signification. Alors, on fait croire que c'est l'intelligence. Mais en réalité, ce n'est pas l'intelligence. Un être intelligent est d'abord réceptif de l'autre. Tandis que là, je ne suis pas réceptif de l'autre, puisque je nie. Donc c'est, au fond, l'orgueil de mon moi. C'est l'exaltation de mon moi qui se sert de l'intelligence pour s'exalter. Mais ce n'est pas l'exaltation de l'intelligence. Vous voyez, c'est un peu subtil ce que je vous dis là, mais je crois que c'est très important à souligner. Ce n'est pas l'orgueil de l'intelligence, ce n'est pas l'exaltation de l'intelligence comme telle. Si je veux pousser mon intelligence jusqu'au bout, je suis dans un réalisme qui accepte l'autre. Parce que c'est par l'autre que je progresse. Alors, on explique. En effet, l'intelligence finira bien par se nier sa propre existence. Et qui peut nier l'intelligence, sinon l'intelligence elle-même? Je peux, alors c'est là où il faut bien comprendre, hein. La négation peut avoir comme source, les deux sources de la négation. Quand je dis « je ne veux pas », vous voyez le petit gosse qui dit ça, comme ça c'est pas vous, n'est-ce pas ? Alors, le petit gosse qui dit ça, la première fois vous avez dit non, ça reste gravé ça, la première fois vous avez dit non, est-ce que c'est l'intelligence ou c'est la volonté ? Ça a été un nom très pratique, c'est-à-dire dans l'ordre de l'obéissance. C'est là où les noms sont les plus significatifs. Non, je ne veux pas. Mais non, je ne veux pas. Vous ne dites pas non, c'est bête. De temps en temps, vous pouvez le dire, mais c'est déjà un peu plus évolué. Votre premier non, c'est non, je ne veux pas. Non serviable. Bien ça, le non servir, non je ne servirai pas, non je n'obéirai pas. Donc, votre non peut avoir comme source votre volonté. La volonté peut être source d'un non affectif, dans l'ordre de la connaissance affective. Je ne veux pas être relatif à quelqu'un. Je ne veux pas être relatif à quelqu'un. Je veux garder mon autonomie. Et donc, à ce moment-là, c'est votre volonté propre qui est source de votre négation. Parce que vous êtes dans l'ordre pratique. Alors, si l'ordre pratique est génétiquement avant l'ordre spéculatif, vous pouvez voir deux sources de la négation. Une première source qui est la volonté, une seconde source qui est l'intelligence. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, la négation, c'est l'exaltation de la subjectivité, en définitive. C'est l'exaltation de la subjectivité, c'est l'exaltation de mon moi. Il faut réfléchir là-dessus, c'est intéressant, parce que ça fait partie, justement, de tout le climat dans lequel nous vivons. Hein. C'est le primat de la négation, ça nous le verrons une fois en critique, c'est le primat de la négation qui fait que, de fait, l'idéologie peut naître. Après, se poser vraiment la question, est-ce qu'il faut le prix de la négation pour que l'idéologie peut naître, puisse naître? Est-ce que toute idéologie, c'est-à-dire le primat d'idées, ne présuppose pas toujours un primat de la négation? Je crois. Je crois que ça ne peut pas se faire autrement. Parce que dès que vous acceptez un primat de l'affirmation, c'est-à-dire de l'autre, vous n'êtes plus dans l'idéologie. Vous reconnaissez que l'autre passe avant vous. Alors c'est justement l'inverse de l'idéologie. Pour que l'autre soit nié, l'enfer, c'est l'autre. Donc, je le mets le plus loin possible. Je le mets le plus loin possible. À ce moment-là, vous mettez en premier lieu votre idée. Bon. Continuons la métaphysique. Alors, je vous disais la dernière fois que la métaphysique met, assistait à la naissance de la métaphysique. Platon disait que le philosophe, c'était une accoucheuse, n'est-ce pas, une sage-femme. Alors, il faut assister à la naissance de la métaphysique. C'est du reste très beau d'assister à la naissance de la métaphysique. D'essayer de voir dans votre esprit, hein, dans votre esprit, parce que c'est par rapport à vous-même que vous êtes accoucheuse, n'est-ce pas, et c'est par rapport à vous-même, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment votre intelligence va naître à ce domaine nouveau qui consiste à regarder ce qui est. En premier lieu. Autrement dit, essayez de comprendre, je dis bien, essayez de comprendre ce que saint Thomas répète, je crois, 175 fois, je ne l'ai pas compté, mais c'est une petite thèse qui a été passée à la grégorienne, donc dans une bonne maison, sur saint Thomas, pour expliquer cette phrase de saint Thomas, « Primum cadit in intellectus ens ». Alors, je l'écris pour que vous puissiez le comprendre. C'est un slogan de saint Thomas. Oui, ça, c'est un slogan de saint Thomas. Je dis, l'écrit 175 fois. Primum cadit in intellectu ens. Alors, c'est le cadit, vous voyez, c'est très curieux. Alors ça, c'est une phrase d'Avicenne, c'est pas d'Aristote, c'est une phrase d'Avicenne que saint Thomas reprend tout le temps. Ça exprime, si vous voulez, ça exprime cette chose qui, pour saint Thomas, est évidente, qui pour nous l'est moins, que ce qui tombe dans l'intelligence, c'est-à-dire ce que l'intelligence reçoit en premier lieu, cadit, c'est pas un petit caillou que vous jetez dans un puits. Cadit, ça tombe. Alors, ici, le petit caillou, c'est ens. C'est un fameux caillou, c'est pas. Donc, c'est ens, c'est-à-dire ce qui est. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Ens. Ce qui tombe en premier lieu, c'est-à-dire ce que l'intelligence reçoit en premier lieu, c'est ce qui est. Ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est ce qui est. L'appétit fondamental de l'intelligence, c'est ce qui est. C'est cela que l'intelligence cherche en premier lieu. Donc l'intelligence est fondamentalement réaliste. Et c'est pour ça qu'il ne peut y avoir qu'une seule philosophie, une philosophie réaliste. Vous voyez, ça, tout ça dépend de cette première phrase, et c'est pour vous faire comprendre. Là, je m'appuie sur l'autorité, hein, l'autorité de saint Thomas. Mais vous voyez bien que je ne vais pas faire une philosophie à partir de l'autorité de saint Thomas. Mais on essaie de redécouvrir ça. Et il faut le redécouvrir, autrement on fait du très mauvais thomisme. C'est comme ça qu'on tue saint Thomas. En se servant de saint Thomas comme autorité. Parce que saint Thomas nous dit qu'en philosophie, l'autorité, c'est la dernière des raisons. En philosophie. On se sert de l'autorité d'Aristote, on se sert de l'autorité de saint Thomas quand on ne sait plus quoi dire. C'est très bien pour les examens, mais c'est pas bien pour la philosophie. Vous voyez ? Parce que pour la philosophie, on doit essayer de comprendre. Pour les examens, on n'a pas besoin de comprendre. Le professeur seul doit comprendre. Et s'il ne comprend pas, c'est de sa faute. Venez, on doit dire, je vois tout simplement. Et c'est vrai, c'est là la différence. C'est pour ça que si on fait des cours de philosophie en vue des examens, ça n'éveille pas du tout. Alors, il faut comprendre ici ce que dit saint Thomas. Hein, c'est l'autorité de saint Thomas. Mais ça, en nota bene. Nota bene, à la fin de la page, ou sur une page particulière, n'est-ce pas? Parce que c'est intéressant, il ne faut pas mêler les deux choses, mais c'est intéressant de voir que ce que nous disons retrouve les intuitions fondamentales de saint Thomas. Quand saint Thomas nous dit donc, primum, ce qui d'abord, en premier lieu, tombe dans l'intelligence, ce qui en premier lieu est reçu par l'intelligence, c'est ce qui est. Saint-Thomas ne dit pas « est », il dit « est », ce qui est. Pour nous faire comprendre que le contact premier de l'intelligence avec la réalité, c'est de saisir dans la réalité ce qu'elle est. L'intelligence n'est pas faite en premier lieu pour connaître le champ, mais ce qui est. Ceci, c'est pour Raison. Non, ce n'est pas en premier lieu le champ, ce n'est pas en premier lieu connaître la vache, ce n'est pas en premier lieu de connaître l'homme, ce qui est. C'est très curieux ça. Ma connaissance affective connaît en premier lieu l'homme. Ma connaissance tout court, mon intelligence tout court, intellectus, le nous d'Aristote, le nous grec. Mon intelligence connaît en premier lieu, saisit en premier lieu, pas l'homme. C'est très très beau, c'est très fort, vous voyez. Tandis que ma connaissance affective connaît en premier lieu l'homme. Ma connaissance affective pratique connaît en premier lieu l'œuvre. Tandis qu'ici, je connais en premier lieu ens, l'intelligence comme telle. Saint Thomas ne dit pas l'intelligence spéculative. Il dit l'intelligence tout court. Parce que pour lui, l'intelligence n'est parfaitement intelligence que dans l'intelligence spéculative. C'est pour ça qu'il dit intellectus. C'est aussi très fort, ça, parce que ça fait comprendre comment la métaphysique, c'est d'une certaine manière ce qu'il y a de plus naturel à ma connaissance. Mon intelligence n'est vraiment naturelle que quand elle fait de la philosophie première. Autrement, elle est toujours dans un état second. Ou dans un état troisième et quatrième. Tandis qu'elle est dans un état premier quand elle découvre ce qui est. Primum cadit in intellectus ens. Bon, alors je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je vous disais la dernière fois, que de fait, au-delà des expériences multiples et diverses, je vois une méta-expérience. C'est-à-dire ce qui rencontre de toutes ces expériences. C'est le jugement d'existence. Ceci est. C'est constater l'exister. Constater l'exister de ceci. Je constate. Mon intelligence touche au-delà des couleurs, au-delà des formes, l'exister. Ceci est. Quand vous dites ça, ceci est. Et vous pouvez vous dire aussi, ceci est. D'une autre manière, mais j'existe. C'est mon intelligence seule qui peut dire ça. C'est le contact, vous voyez, avec ens, ceci est. Alors, ça, je crois que nous pouvons tous le saisir. Hein, et nous voyons comment c'est nécessaire de dire ça. C'est nécessaire pourquoi ? Parce que je dois aller jusqu'au bout de ce que représentent ces expériences. Je vois leur diversité, je vois leur unité. Et leur unité, elle se comprend par le fait que toutes ces expériences me mettent en présence de ceci est. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout parce que l'intelligence a un appétit naturel à découvrir ce qui existe. Alors là, je peux mettre la phrase de Saint-Thomas. Qui montre qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusque-là. Si je ne vais pas jusque-là, mon intelligence s'arrête. Il y a donc un refoulement de l'intelligence. si Freud a fait les refoulements du cœur et de l'appétit, on peut faire les refoulements de l'intelligence. Arrêter l'intelligence avant la métaphysique, avant la philosophie première, c'est mettre l'intelligence dans un état de refoulement. C'est donc empêcher l'intelligence de croître. C'est empêcher l'intelligence de croître, c'est empêcher l'intelligence de respirer. L'intelligence ne respire profondément que quand elle atteint ce qui est. Vous voyez, c'est ça qui est si important à comprendre. Notre monde d'aujourd'hui refuse la philosophie première. Elle met donc l'intelligence dans un état de refoulement. Et plus les êtres sont intelligents, plus notre monde d'aujourd'hui les met dans un état de refoulement. Et donc, à partir de là, fait que l'intelligence ne peut plus être elle-même. Alors elle va s'allier à l'imaginaire. Elle va s'allier à des choses qui ne sont plus directement le domaine de la réalité. Et elle deviendra incapable. Une fois que l'intelligence découvre, ou dévoile, comme je vous disais, dévoile ce jugement d'existence, ceci est, qui est commun à toutes mes expériences, j'existe. L'intelligence peut, à partir de ce moment, comprendre ce qu'il y a d'unique dans ce jugement d'existence. Elle peut comprendre ce qu'il y a d'unique, c'est-à-dire découvrir dans un état d'admiration ce qu'il y a d'unique dans ce jugement d'existence. En effet, ce jugement d'existence, il est le même par rapport à la table, par rapport à la vache, par rapport à moi-même. Ce jugement d'existence, il est le même par rapport à toutes les réalités que je connais. Donc, le ceci a la plus grande diversité. Puisque tout ce qui est, c'est toujours le ceci. Et l'unité de cette diversité se fait par être. L'exister. L'exister du chat, l'exister de l'homme, l'exister de la table, l'exister, toujours l'exister. C'est là où il y a quelque chose de juste dans l'intuition de Maritain. C'est quand Maritain dit qu'il y a une intuition de l'être, je crois que nous pouvons dire qu'en effet, il y a une certaine intuition de cette unité de être dans la diversité des ceci. Là, il y a une intuition. Et vous voyez, l'intuition ne porte pas sur l'être, elle porte sur l'unité de l'exister dans la très grande diversité des réalités qui existent. Puisque l'intuition, c'est toujours la saisie d'un rapport. Et la saisie d'un rapport un à travers la diversité. Et c'est l'intuition qui éveille l'admiration. Ordinairement. Quand vous avez une intuition, ça peut arriver, n'est-ce pas, de temps en temps. Quand vous avez une intuition, réfléchissez un peu à cette intuition. Vous êtes au fond très proche d'un état d'admiration. La preuve, c'est que vous êtes pris dans une intuition et puis quelqu'un vient vous déranger, vous n'êtes pas très content. Parce qu'une intuition demande, voyez, cet état d'admiration. Et comme celui qui est à côté de vous n'a pas la même intuition, il vous dérange. Et supprime cet état d'admiration. Il n'y a rien de plus douloureux. Point de vue de l'intelligence, bon, de supprimer l'état d'admiration dans lequel je... Oh, comme c'est beau. Mais, quand il s'agit d'une œuvre d'art, c'est rien. Mais regarde comme c'est beau, espèce d'abyssin, mais regarde. Alors, l'état d'admiration, quand vous êtes dans un état d'admiration, vous voulez demeurer dans cet état d'admiration. Vous ne voulez pas passer, parce que c'est un état euphorique, l'admiration. C'est merveilleux, l'admiration. Alors, il y a des admirations beaucoup plus profondes que l'admiration esthétique, qui est cette admiration de cette intuition de l'être, où cette intuition du rapport de l'unité dans la diversité que réalise l'être. L'exister réalise un rapport d'unité dans la plus grande diversité qui soit. C'est donc le rapport le plus foncier qui soit. C'est donc l'intuition la plus fondamentale. C'est vrai. Mais elle ne porte pas sur l'être. Elle porte sur le rapport de l'unité comme est l'être dans la diversité. Mais c'est là où Parita n'a pas précisé assez. Poétiquement, il a raison. Mais philosophiquement, non. Mais poétiquement, il a raison, c'est très vrai, il y a une espèce d'intuition extraordinaire. C'est bien ce que dit Raissa. Vous savez, quand Raissa exprime cette intuition de l'être, et quand Jacques, à la suite de Raissa, reprend cette intuition, Raissa dit textuellement que c'est en regardant le chat et en se regardant qu'elle dit oh, « j'ai eu l'intuition de l'être ». Évidemment, entre Raissa et le chat, il y avait quand même une petite distance. Alors, évidemment, à ce moment-là, l'intuition de l'être était d'autant plus belle que l'unité faisait l'unité entre une très grande diversité. Et plus la diversité est grande, plus c'est étonnant de voir l'unité. Et donc plus l'intuition est forte. C'est étonnant de voir cette unité, dans cette diversité. Et plus l'intuition est forte, plus l'admiration est grande. Donc vous voyez bien, j'essaie de préciser, parce que c'est pour qu'on comprenne un peu la position de Maritain, c'est intéressant quand même, il faut le sauver. N'est-ce pas ? Donc alors il s'agit de bien situer exactement cette intuition. J'ai l'expérience. Dans l'expérience, je saisis le jugement d'existence. Je peux répéter cela à travers toutes mes expériences. Et je saisis à ce moment-là qu'il y a cette unité d'être, d'exister, à travers la plus grande diversité. J'ai donc cette intuition, cette unité dans cette diversité. Cette intuition fait naître en moi l'admiration. Ça, je crois que nous pouvons saisir ces différents moments. Une fois que je suis dans cet état d'admiration, l'état d'admiration, normalement, me met dans un état d'éveil. Quand j'admire, je suis éveillé. C'est difficile d'admirer étant endormi. Et quand vous avez envie de dormir, vous n'êtes plus tout à fait dans un état d'admiration. L'admiration me conduit à l'interrogation. L'admiration est d'ordre affectif. C'est pour ça qu'on n'aime pas d'être dérangé. Je suis lié à la réalité que j'ai expérimentée à travers l'intuition que j'en ai eue. L'interrogation, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui interroge. C'est une activité intellectuelle, l'interrogation. L'analogue à ce que je vous ai déjà dit, à l'hypothèse. Mon intelligence interroge. Et c'est l'intelligence qui interroge en se posant la question, qu'est-ce l'être ? Qu'est-ce l'être ? Vous voyez, l'être n'est pas objet d'intuition, mais objet d'interrogation. Vraiment, l'interrogation qui met en pleine lumière qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est à partir de ce moment-là, vous voyez, j'allais dire que la métaphysique va naître. Évidemment, si je ne donne pas de réponse, c'est sur le seuil de la naissance. Vous voyez, ça reste encore, n'est-ce pas, enveloppé dans la matière, ça reste encore enveloppé. Mais quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être, il y a une possibilité de répondre. Et nous avons essayé de comprendre. Alors, ce qu'il faut, c'est s'arrêter un tout instant sur l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être. Parce que ça, c'est important de voir ça. C'est très intéressant de voir ce moment de l'intelligence qui interroge. Une intelligence qui interroge, c'est une intelligence qui est tout entière mobilisée pour aller plus loin. C'est une intelligence qui veut aller jusqu'au bout. Réfléchissez aux interrogations que vous posez. Alors, il y a des interrogations qui relèvent tout simplement de la curiosité. Ah, je suis énervé, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Cette boîte là, cachée, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est pas adressé à moi, mais c'est quand même très intéressant. Alors je vais essayer d'enlever tous les deux, et puis après de le remettre, pour qu'on ne voit pas. Vous voyez l'interrogation ? Vous avez interrogé le chien de chasse, qui veut savoir le gibier. Alors il interroge. L'interrogation présuppose un appétit de l'intelligence. Et c'est vrai que la curiosité comme telle, exprime le point de vue de l'intelligence. C'est la curiosité qu'on a quand on entend ça. On sait trop bien d'où ça vient. C'est pour ça qu'on n'est pas curieux, nous, hein. Mais autrement, on serait curieux, on entendrait un. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la curiosité. Alors on veut savoir d'où ça vient, n'est-ce pas? Tandis qu'au contraire, quand on entend l'autre, on n'est pas curieux. On sait très bien. C'est agaçant, c'est tout. Parce que c'est rival. Vous voyez, le cri est rival de la parole. Et donc, le rival du logos. C'est le cri. C'est le cri du cri. Alors, l'interrogation, c'est l'intelligence tendue vers un objet qui veut connaître, qui veut savoir. C'est l'appétit de l'intelligence, c'est une intelligence tendue. C'est fatigant d'interroger. Parce que c'est l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout, qui ne veut pas s'arrêter à tel ou tel aspect particulier. L'expérience n'est pas fatigante, mais l'interrogation est fatigante. Et c'est pour ça, pour qu'il y ait interrogation, il faut qu'il y ait admiration. Il faut de l'amour pour se fatiguer. S'il n'y a pas d'amour, on ne se fatigue pas. On fait la planche, tout simplement. Tandis que s'il y a l'amour, ah oui, très bien, je vais aller plus loin. Et c'est très significatif, ça. L'expérience, c'est reposant, c'est détendant, l'expérience. L'admiration va permettre le dépassement d'expérience pour l'interrogation. Et l'interrogation, c'est l'intelligence tendue qui veut savoir. Alors, regardez bien le mouvement d'intelligence. Quelle différence y a-t-il? Et ça, il faut bien le comprendre. Quelle différence y a-t-il entre cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et « ceci est ?» Le « ceci est », en se multipliant, a suscité l'admiration. Et j'ai interrogé à partir de l'admiration. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez la différence entre « ceci est » qu'est-ce que c'est que l'être? Vous avez donc ici, grammaticalement, vous avez donc ici le présent, et vous avez ici l'infinitif. Vous êtes en face d'un verbe qui a deux formes différentes, le présent et l'infinitif. Quelle différence y a-t-il entre le présent et l'infinitif? C'est que vous êtes en présence. C'est la grammaire, ça. Il faut pas m'exprimer autrement. Il faut bien pour que vous compreniez. Vous êtes en présence du passage du concret à l'abstrait. Blanc, blancheur. Comme prend toujours saint Thomas. Quand vous prenez Larousse, vous êtes constamment en présence du passage du concret à l'abstrait. Qu'est-ce que c'est que blanc? Blanc, qu'est-ce que c'est que la blancheur? La blancheur, c'est ce par quoi je suis blanc. Vous comprenez très bien. La blancheur, c'est ce par quoi je suis blanc. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est ce par quoi ceci est. Vous avez compris? Plus besoin de métaphysique. L'être, c'est ce par quoi ceci est. Exactement comme vous dites, blancheur. Parce que vous voyez, vous pouvez faire l'analogie. Hein. Ici, vous mettez blanc. Et ici, vous mettez blancheur. Donc ici, vous êtes en face du concret. Ici, vous êtes en face de l'abstrait. C'est très curieux. Hein. L'intelligence éprouve le besoin d'abstraire. La vie de l'intelligence est d'abstraire. Je ne peux pas faire autrement. Autrement, je n'interroge plus. Toutes vos interrogations sont une abstraction. Toutes vos interrogations. Vous voyez, ça, c'est réhabiliter l'abstraction. C'est très curieux. Dans le monde d'aujourd'hui, on réhabilite l'interrogation et on supprime l'abstraction. À partir de Bergson, on ne veut plus d'abstraction et on réhabilite l'interrogation. Or, l'interrogation se fait toujours par votre abstraction. Une hypothèse est une abstraction. C'est une généralisation anticipée, une hypothèse, toujours. Ce n'est pas le fait. Donc quand vous faites une hypothèse, vous faites dans l'ordre de l'abstraction. Vous anticipez la loi. Alors l'intelligence ne peut interroger qu'en passant par l'abstraction. Elle a besoin d'abstraire, c'est bien ce qu'on fait ici. Hein. Quand vous regardez ceci, et vous êtes en face du concret, c'est cette réalité qui existe. C'est cette vache qui existe. C'est ce cri qui existe. Il est. Dans l'interrogation, vous séparez le. Vous mettez en pleine lumière ce qui est curiosité pour vous. Et pour le mettre en pleine lumière, vous le prenez sous une forme abstraite. Ah, vous commencez à comprendre pourquoi on abstrait. On abstrait pour mettre en pleine lumière quelque chose. Oui, blanc, c'est le blanc du mur, c'est le blanc du vêtement, c'est le blanc du visage. Blancheur. Vous ne pouvez plus dire que c'est la blancheur du mur. Blancheur. Vous avez mis blancheur en pleine lumière. Grâce à l'abstraction. Vous avez isolé. Les procédés d'abstraction isolés. Vous mettez en pleine lumière et vous dites qu'est-ce que c'est que l'être. C'est très important de comprendre ça. Le passage du concret à l'abstrait. L'intelligence va mettre en pleine lumière une forme, un verbe, pour essayer de comprendre ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je ne dis pas qu'est-ce que c'est que ceci est. Ceci est, c'est tout. C'est-à-dire que je peux dire qu'est-ce que c'est que l'être. Je pourrais dire aussi qu'est-ce que c'est que ce ceci. Ça oui, mais je peux dire aussi qu'est-ce que c'est que l'être. Je peux donc mettre en pleine lumière cela. Les modernes appellent ça thématiser, il faut le savoir. Hein. De temps en temps, il faudra regarder des termes modernes. Thématiser, on thématise une forme en la présentant en soi. Vous voyez le procédé de Platon. La forme en soi. Qu'est-ce que c'est que la forme en soi? C'est regarder la forme sous un mode abstrait. Je regarde le bien en soi. Je ne regarde pas ce que c'est qu'un cheval bon. Je ne regarde pas ce que c'est qu'un homme bon. Je regarde ce que c'est que le bien en soi. Donc j'abstrais le bien et je veux le thématiser. Je veux le regarder pour lui-même. Ici, je veux regarder l'être pour lui-même. Je pourrais dire, qu'est-ce que c'est que l'être en soi? Si j'étais platonicien, je dirais ça. Mais comme je ne le suis pas, je laisse tomber le en soi. Et je, tout simplement, je regarde l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je le mets en pleine lumière. Donc, procéder, et ceci, est-ce que j'en ai eu conscience? Oui, j'ai eu conscience de passer de l'admiration à l'interrogation. Mais est-ce que je peux transformer ce passage? Puisque je ne veux pas abstraire. Hein. Je ne veux plus abstraire. C'est très ennuyeux d'abstraire. Et je suis obligé si j'interroge. Vous ne pouvez pas interroger sans abstraire. Vous voyez, l'interrogation, c'est donc le premier procédé d'analyse. C'est le premier procédé d'analyse. Puisque je suis en face de quelque chose de complexe, et ce quelque chose de complexe, je veux le saisir en partie. Alors je mets en pleine lumière être. Quand je dis ceci est, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Je passe donc d'un mode concret à un mode abstrait pour mettre en pleine lumière ce qui m'intéresse. Ce qui a suscité en moi l'admiration. Ce qui a été pour moi la fine pointe de l'intuition. L'unité dans la diversité, c'est l'être. Et c'est cette unité dans la diversité qui a suscité mon admiration et que j'interroge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.